Le débat du jour. Nicolas Brousse.
Bonsoir à tous, c'est effectivement l'heure comme chaque soir de débattre sur RFI. Nous abordons un sujet qui ne laisse personne indifférent, l'énergie nucléaire et sa sécurité. Alors qu'hier était posé un pansement de 36 000 tonnes qui a coûté la bagatelle de 432 millions d'euros. Il s'agissait d'un grand malade, hein, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il est à présent enfin totalement recouvert d'un vrai dôme de confinement. Il vient en fait recouvrir le premier sarcophage qui avait été bâti à la hâte en 1986 après l'explosion du réacteur le 26 avril 1986. Explosion qui allait provoquer la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Depuis, il y en a eu d'autres, notamment celle de Fukushima au Japon. C'était en 2011. Le risque zéro n'existe pas. Est-il suffisamment faible pour que l'on continue à utiliser largement l'énergie nucléaire? Le nucléaire civil est-il dangereux? C'est le débat de ce soir. Et pour en discuter, Valérie Faudon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, qui possède un site internet où il y a beaucoup de choses, hein, sfen.org. Bernard Laponge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes physicien nucléaire, expert en politique énergétique, membre de l'association Global Chance, avec là aussi un site internet en .org, là aussi très documenté. Et vous êtes l'auteur du livre « En finir avec le nucléaire ». Pourquoi et comment, paru aux éditions du Seuil. Alors, faire les présentations, on sent bien que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Merci en tout cas à tous deux d'avoir fait le déplacement pour être en direct sur RFI. Valérie Faudon, première question. 30 ans après, on en est encore à s'occuper de Tchernobyl. Cette arche de confinement, ce dôme, ce n'est qu'une étape vers le démantèlement. Ça veut dire que 30 ans après, il y a encore des risques avec Tchernobyl. 30 ans après, on a encore un problème avec Tchernobyl.
Non, donc justement, ce nouveau dôme de confinement a été mis en place pour prévenir les risques. Vous savez qu'une structure provisoire avait été mise en place après l'accident.
Ce fameux sarcophage.
Absolument. Et donc, il y avait des risques que ce sarcophage ne tienne pas. Et donc, c'est pour ça que ce nouveau dôme est là. C'est pour pouvoir poursuivre le chantier de démantèlement en toute sécurité.
Ça veut dire, Bernard Laponge, quand même qu'on a mis un pansement sur le pansement.
Sur une jambe de bois, oui. c'est un peu ça. Mais
sur une jambe de bois nucléaire, ce qui est quand même un peu plus problématique.
Si vous voulez, l'accident de Tchernobyl n'est toujours pas terminé, d'une certaine façon. Il y a eu l'accident, l'explosion, mais les suites durent et dureront encore très longtemps. D'une part, le réacteur, donc le cœur du réacteur est toujours là, fondu, etc. Et donc le démantèlement sera extrêmement long et extrêmement difficile, avec une certaine protection, mais quand même, il faudra aller à l'intérieur.
Vous voulez dire que malgré ce dôme, il y a encore des risques pendant ces opérations de démantèlement?
Bien sûr, parce que c'est en particulier pour les travailleurs, puisque la matière radioactive est toujours là. Et donc le problème, ça sera de l'enlever et donc de stocker les déchets, etc. Et puis il y a surtout la contamination de toute cette zone qui elle aussi continue, puisque les produits radioactifs sont toujours là, même s'ils décroissent lentement avec le temps. Et donc il y a toute une zone qui a été évacuée, mais il y a aussi des zones dans lesquelles il y a des gens, des millions de gens qui vivent dans des zones contaminées, donc avec des conséquences.
Et on n'a pas encore forcément identifié de manière exhaustive toutes ces conséquences sur ces populations qui ont vécu dans la zone de Tchernobyl. On découvre encore des choses.
On a quand même une bonne idée, hein, puisqu'en fait, il y a des rapports réguliers épidémiologiques. J'ai en tête celui de 2011, hein, qui a été fait par les Nations Unies. Donc, ces populations sont suivies, moins bien qu'au Japon, hein, puisqu'au moment de l'accident, on n'avait pas forcément tous les moyens épidémiologiques sur le terrain pour identifier les personnes et les suivre. Et donc, on sait à peu près aujourd'hui le nombre de personnes qui sont décédées pendant l'accident. C'est évidemment très précisément les gens qui ont eu un cancer de la thyroïde. Par contre, bien sûr, on fait plutôt des études statistiques, hein, pour savoir quelle a été l'influence en termes d'augmentation des taux de cancer, parce que sur c'est la méthode qu'on utilise en fait. Vous savez que tout le monde a, enfin il y a 30% de la population qui finira par avoir un cancer. Donc en fait, on regarde un petit peu par rapport à la normale quelles sont les déviations et quels sont les accroissements de taux de cancer.
Mais est-ce que ces études sont fiables? Est-ce qu'elles sont transparentes? Je me souviens, hein, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, j'étais gamin et je me souviens de ce nuage radioactif qui s'arrêtait aux frontières de la France. Est-ce que aujourd'hui, 30 ans après, Bernard Laponge, on est fiable dans nos évaluations et dans ces opérations statistiques? On sait exactement le nombre de cancers.
Il y a toujours des controverses. il y a jusqu'à quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, sur le site du gouvernement français, il y avait Tchernobyl, accident grave, etc. Victime, 32 morts à court terme. Point. Alors qu'on sait que c'est des milliers. Et il y a toujours des controverses, parce que il y a des conséquences directes, des cancers directement liés. Il y a la seconde génération dans laquelle il y a des victimes par rapport au risque génétique.
Vous voulez dire que la radioactivité se transmet de mère à enfant ?
Qui se transmet, c'est le fait que la radioactivité a touché
les pathologies
la première génération, et peut y avoir des modifications génétiques. Les enfants qui naissent peuvent avoir des maladies qui sont induites du fait de la région où ils habitent, où il y a de la contamination, et donc il y a une radioactivité qui reste relativement forte, mais tout le monde ne peut pas partir. Vous avez 6 millions de gens qui vivent dans des zones qui sont contaminées, donc la nourriture est contaminée, et donc ça se perpétue. Et même très loin, il y a certains villages en Finlande dans lesquels il y a eu des victimes à cause de cette contamination. Donc
je voudrais quand même apporter quelques précisions. Donc c'est vrai qu'il y a eu des controverses sur Tchernobyl, mais
il y a eu quand même beaucoup. Depuis les premiers jours aussi.
Enfin, pas
le coup du nuage radioactif, ça pose question quand même sur la communication des autorités. Alors, tout le monde s'est dit non, ça va en France, il se passe rien. Moi, ça m'a choqué. Je vous en parle 30 ans après.
Je sais bien, c'est quelque chose que les gens ont en tête. Pour parler de la situation à Tchernobyl, même si sont les autorités soviétiques à ce moment-là ont géré l'accident, et très mal, ils ont très mal géré les situations d'urgence. Assez rapidement, sont des experts internationaux qui sont arrivés. Donc, par exemple, tout ce qui a été les opérations pour justement sauver les enfants qui ont eu un cancer de la thyroïde, sont beaucoup de médecins étrangers qui sont venus. L'Organisation mondiale de la santé, les organisations onusiennes. Donc, il y a énormément d'organisations internationales qui ont été présentes. Donc je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les chiffres qui sortent de ces organisations internationales sont vraiment fiables. Donc on parle en effet de à peu près 50 personnes qui sont décédés immédiatement, qui ont reçu des doses extrêmement élevées, c'était les pompiers, c'est les gens qui sont venus très courageusement gérer l'accident les premiers jours.
Très courageusement, ou peut-être qu'ils ne savaient même pas à quoi on les exposait.
Oui.
Les liquidateurs aussi, on les a mis dans le cœur du réacteur sans vraiment leur dire.
C'est vrai que les circonstances de l'intervention étaient dures. Enfin, quand on lit le livre de la prix Nobel de littérature, on voit que les gens aussi avaient un réel dévouement. Ils savaient qu'il y avait un danger, mais ils étaient vraiment très dévoués, très courageux. Et on sait qu'il y a à peu près entre 4000 et 5000 décès prématurés liés à l'accident. Alors, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que les niveaux de dose aujourd'hui sont extrêmement faibles, puisque le principal isotope qui s'est répandu, c'est le césium-137, puisque l'iode a disparu dans les premiers jours de l'accident, et que c'est un élément qui a une durée de vie de l'ordre de 30 ans. Donc aujourd'hui, on parle de contamination extrêmement faible dans ces zones-là, des contaminations qui sont assez proches de la radioactivité naturelle.
Bernard Laponche, pour Tchernobyl, on est sur le pire est derrière nous. De toute
façon, je suis en total désaccord. L'OMS est très peu intervenue, parce que l'OMS est soumise à l'AIEA, ce qui est complètement...
L'Agence internationale de l'énergie atomique.
Les chiffres qui sont sortis par ces organismes ne sont absolument pas crédibles. Le césium, même s'il a une demi-vie de 30 ans, ça veut dire qu'au bout de 30 ans, il y a encore la moitié. Donc, c'est pas rien la moitié. Donc, c'est pas vrai que les contaminations sont très faibles. Et quant aux chiffres de victimes, je vous dis, il y a des tas d'études qui sont en contradiction totale avec les chiffres officiels. Donc, dont acte. Et récemment, moi, j'ai rencontré le professeur Bornajewski, qui est sur place, qui est à Kiev, qui a été d'ailleurs à l'époque emprisonné parce que, il contestait les chiffres officiels. Et il continue à travailler. Il a pu revenir à Kiev. Il a été réfugié en France. Et il continue à trouver, justement, à la troisième génération, des conséquences de cette radioactivité. Donc je pense qu'il faut clairement dire que Tchernobyl est une catastrophe qui couvre des territoires et des populations extrêmement élevées. Que pour les Ukrainiens, c'était un poids économique absolument considérable. Et que c'est loin d'être fini.
Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que Tchernobyl était une catastrophe. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Fukushima, c'était en 2011, c'était donc il y a 5 ans, c'était au Japon, on parlait de Tchernobyl à l'époque de l'URSS, c'était un autre régime. Est-ce que vous estimez qu'il y a une gestion de la crise de Fukushima qui a été mieux gérée par les autorités japonaises? Est-ce qu'il y a eu plus de transparence? Est-ce qu'on a fait prendre moins de risques aux gens qui se sont tout de suite déplacés après la catastrophe?
Alors bien sûr, c'était sans commune mesure. Alors sur la gestion des populations, bien sûr la gestion de la population et des évacuations a été bien meilleure. En revanche, bon, alors c'est vrai qu'on regarde ça avec des yeux de 2011. C'est vrai que la gestion de la crise par les autorités japonaises a été très critiquée.
J'ai l'impression qu'à chaque fois, on minimise quand même au départ. On nous disait, non, ben finalement, c'est pas si grave, tout va bien pour Tokyo, il n'y a aucun... À chaque fois, l'autorité nous dit, non, c'est pas si grave.
Alors, bon, pendant l'accident, il faut voir qu'on était juste après un tsunami majeur qui avait fait 20 000 victimes. Les routes étaient coupées, il n'y avait plus d'électricité sur le site. Enfin, on était dans des circonstances très difficiles. Il faut aussi penser aux gens qui étaient opérateurs dans la centrale au moment de l'accident, puisqu'ils ont continué à faire leur travail alors qu'ils ne savaient même pas si leur famille était encore vivante. Ils pouvaient pas, les gens, il n'y avait plus de téléphone mobile. Hein, donc, ça a été quand même des circonstances dramatiques. Donc c'est bon, on peut les comprendre, c'est difficile de les critiquer, mais toujours est-il que c'est vrai que tous les retours d'expériences internationaux qui ont été faits disent que globalement, les Japonais n'étaient pas préparés, même en termes de moyens mobiles, à faire face à cette catastrophe. Et c'est un des principaux enseignements, en particulier la France a mis en place depuis donc une force rapide d'intervention nucléaire qui peut justement intervenir très rapidement avec des moyens mobiles sur un site. Et ça a été justement un moment, enfin justement, dont l'ensemble du parc nucléaire mondial a appris.
Bernard Laponge, vous êtes d'accord, les Japonais ont globalement bien géré cette crise nucléaire. Et là, ce sera la deuxième question, est-ce qu'on a tiré les enseignements de ce problème?
Alors ça c'est insupportable. Quand on nous explique chaque fois que grâce à cet accident, on a un retour d'expérience intéressant. Je veux dire, combien en faut-il pour...
Rétrospectivement, c'est très inquiétant, ça veut dire que...
Non, mais je veux dire, alors le prochain, on apprendra encore quelque chose, et le prochain, on apprendra encore quelque chose.
Mais il faut qu'on tire toujours de ces erreurs, des enseignements.
Bien sûr, c'est comme ça, il faut progresser.
C'est comme la guerre, c'est bien, hein, parce qu'on améliore la chirurgie. Donc, ça suffit, cet argument. Fukushima... Si le vent avait tourné dans l'autre sens, et ça, c'est, j'ai entendu quelqu'un de l'IRSN à une émission radio, si le vent avait tourné dans l'autre sens, il fallait évacuer Tokyo. Tokyo, c'est 30 millions d'habitants. Donc voilà ce que représente un accident nucléaire majeur. Et quand on entend l'autorité de sûreté nucléaire française qui nous dit, il y a très récemment, un accident nucléaire majeur de type Fukushima est possible en Europe, et en France, on peut se poser la question, est-ce que nous acceptons ou non ce risque? Quand on vous dit que quelque chose est possible, ça veut dire qu'il peut arriver.
Oui, mais on nous dit que c'est, je crois avoir lu, que c'est, il y a un risque sur le 1 million d'années de production.
Mais c'est complètement faux. On a dit, pendant longtemps, il y a un risque 1 pour 1 million par année réacteur. Bon, ça veut dire que si ça avait été vrai... Il y aurait eu sur l'ensemble du parc mondial de 450 réacteurs 0,14 accidents. Donc on peut se dire pendant
sur rien, sur 5, on dit rien.
Donc c'est rien. Il y en a eu 5. Ce qui est énorme par rapport à 450, hein, parce que les avions par exemple, il y a des accidents.
Et par rapport à 0,14, c'est énorme aussi.
Voilà, c'est 300 fois plus. Et donc je dis pas du tout que donc l'histoire a prouvé que ce que disait les promoteurs du nucléaire, en particulier en disant que l'accident grave, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Three Mile Island, même pas l'accident majeur, est impossible.
Et n'est ça, pas c'est pris les États-Unis en 79.
Voilà. L'accident grave est impossible et n'est pas pris en compte dans les études de sûreté. Parce qu'il est impossible. Or, il s'est produit sur 5 réacteurs, Three Mile Island, Tchernobyl, les 3 réacteurs de Fukushima. Et donc, il faut revoir complètement. Et donc, on arrive maintenant à une période où on ne nous dit plus que l'accident est impossible. On y dit qu'il est possible. Et que, bien sûr, on fait le maximum pour qu'il n'y arrive pas. Ce qui est quand même la moindre des choses. Mais ça change complètement, y compris le discours officiel. Si cet accident est possible, vous imaginez soit Fukushima, soit Tchernobyl, sur une centrale française. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et si ça se produit, je peux vous dire que la force rapide et toutes les évacuations, ça sera absolument catastrophique.
Valérie Faudon, au moins, il y a un changement de discours. Avant, on disait que c'était impossible. Maintenant, on dit que c'est possible. On a l'impression qu'il y a quand même un peu plus de transparence sur cette question nucléaire. Déjà, vous acceptez de débattre. Le nucléaire, au départ, c'était militaire. Il y a une grosse culture du secret. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même déjà un peu plus open sur la question.
Ah, moi, je vous dirais aujourd'hui que c'est... l'industrie la plus transparente, en tout cas en France. Et c'est peut-être aussi un des enseignements de ce qui s'est passé au moment de Tchernobyl. Vous savez qu'il y a une controverse hein, sur ce qui a été dit, ce qui n'a été pas dit. Bon, maintenant, il y a 30 ans, il y a une chose qui est sûre, c'est que parce que le public a ressenti qu'il y avait un manque de transparence, l'industrie a fait énormément de progrès. Est extrêmement transparente. Vous savez qu'elle déclare tous ces événements sur les sites, que tout est mis en ligne. Donc il y a une exigence extrêmement forte et certainement enfin, c'est l'industrie qui a la plus grande transparence aujourd'hui. Ça a été un petit peu l'enseignement.
Même Areva que l'on a accusé d'avoir oublié de prévenir de certaines anomalies s'est fait épingler par l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors Areva a justement prévenu de ces anomalies qu'ils avaient découvertes.
Un peu tard.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont déclaré tout de suite. À mesure,
les équipements étaient en place.
Oui, enfin, bon, c'est quand même... ils ont prévenu au moment où ils ont découvert ces points-là. Ma connaissance, l'audit est en ligne. Hein, l'audit qu'ils ont commandé à cette époque-là a été publié. Donc, ils ont été tout à fait transparents.
Il y a quand même un problème. On n'en est évidemment pas encore à une catastrophe, mais en ce moment, il y a une vingtaine de réacteurs en France, une petite vingtaine, qui sont à l'arrêt.
Oui.
Ça veut dire quoi? Que le parc a un problème d'entretien? Le parc est vieillissant et n'est plus au niveau?
Ils sont à l'arrêt. Il y a une vingtaine à l'arrêt. Il y en a quelques-uns qui ont des problèmes particuliers.
Pas simplement un entretien annuel.
Alors, il y a aussi des entretiens annuels. Hein. Donc, il y a actuellement un audit de grande ampleur hein, qui a été demandé par l'autorité de sûreté nucléaire sur le parc. Certaines parties de ces audits se font lors des arrêts annuels.
Et donc, plutôt sur d'autres l'été, on réacteurs. Imagine, parce qu'il y a moins
Exactement.
De demande d'énergie.
Donc, c'est en général donc, l'été et à l'automne que se font les arrêts pour maintenance annuelle et rechargement du combustible. Donc, certains de ces audits se font pendant les arrêts. Pour d'autres centrales, les audits ont été avancés, justement pour qu'elles soient disponibles pour l'hiver où on aura besoin de l'ensemble du parc. Ouais, tout à fait.
Bernard Laponche, vous n'êtes pas inquiet, sur l'état de santé du parc nucléaire français?
Je suis très inquiet, mais c'est pas que moi. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire a dit que la situation était très préoccupante. De la part d'un directeur général d'une autorité administrative.
C'est de la transparence.
Ça veut dire quelque chose. Non, mais c'est très bien, mais moi, je...
Il est dans son rôle, en fait.
Attendez, il est dans son rôle, mais il le remplit. Le problème, c'est que si c'est très préoccupant. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés? C'est pas du tout pour des contrôles normaux. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de réacteurs, 18, qui avaient des problèmes de même nature que ce qui se passe pour la cuve du réacteur de l'EPR, mais qui est en construction, donc pour le moment, il n'y a pas de risque.
Mais pour l'EPR.
Pour l'EPR, mais les 18 qui restent, il y a des pièces défectueuses dans les générateurs de vapeur.
Non, ce ne sont pas des pièces défectueuses, hein, ce sont des pièces qui fonctionnent tout à fait bien, qui sont d'ailleurs conformes à la réglementation au moment où elles étaient produites, puisque la réglementation a changé. Donc il s'agit en fait de vérifier que ces pièces qui fonctionnent tout à fait normalement pourraient satisfaire donc des conditions extrêmes en cas d'accident. Et donc d'assurer cette démonstration. Il s'agit d'un problème nouveau, hein, puisque on est dans des domaines de recherche métallurgique qui, justement, ces questions n'ont jamais été posées. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui nous regardent, hein, parce que c'est justement ces questions ne se sont jamais posées dans leur pays. Donc là encore, hein, ces pièces fonctionnent, elles ont été conformes au moment de leur livraison. Il y a l'application rétroactive d'un changement de réglementation. Et donc, c'est pour ça que ces vérifications sont
en cours. On prend de nouvelles mesures de précaution et de nouvelles mesures de sécurité.
Je pense qu'en fait,
je suis désolé, on va devoir rendre l'antenne, mais le débat est passionnant et je pense que les auditeurs réagiront sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Merci beaucoup, Bernard Laponche, physicien, expert en politique énergétique.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.